Bookmakers.
Les écrivains au travail par Richard Guettet.
Sur Arte Radio.
Tantôt je me sens un titan et tantôt un avorton de 3 mois, écrit Zelda Fitzgerald à Scott pendant la rédaction de son roman Accorde-moi cette valse. Pourquoi est-ce que les femmes s'identifient, y compris physiquement,
mes lèvres,
à ce qu'elles créent? Pourquoi éprouvent-elles envers leurs manuscrits, leurs sculptures, leurs tableaux la même ambivalence, oscillant de l'amour à la haine, du narcissisme au masochisme, qu'envers leur propre corps? Pourquoi ont-elles plus de mal que les hommes à maintenir leur travail artistique à l'extérieur d'elles, à la bonne distance? Pourquoi entend-on presque toujours, derrière l'affirmation des femmes, cette interrogation « Est-ce que j'ai le droit ?»
La langue.
Est-ce parce qu'elles ne peuvent ni écrire, ni faire l'amour, sans s'assurer au préalable que cela n'entraînera pas de conséquences fâcheuses? Elles calculent. Quel jour sommes-nous? Et je pris ma pilule, fais les courses. Alors tout va bien, c'est sûr, feu vert, je peux commencer à désirer, à délirer. Et elle tremble.
Tremblez, flemmards et flemmardes du monde entier. Pendant 20 ans, Nancy Houston a écrit tous ses textes en français, sa langue d'adoption. Puis, à partir de Cantique des Plaines, qui sort en 1993, année de ses 40 ans et de son entrée chez Actes Sud, l'intrépide canadienne s'est remise à écrire directement dans sa langue maternelle, l'anglais. Avant de traduire elle-même en français le roman du moment, avec de très nombreux allers-retours entre les deux versions. Au final, seule la version française parvient à ses éditeurs et éditrices. C'est 2 fois plus de boulot. Mais les problèmes rencontrés dans une langue solutionnent ceux rencontrés dans l'autre. Être dedans dehors, dit-elle, c'est la position idéale. Si on se confond trop avec sa culture, on ne peut pas se mettre à distance pour l'analyser. Une tournure d'esprit qu'elle partage avec l'Irlandais Samuel Beckett, désigné comme son frère et comme son pied dans un curieux livre hommage, Limb Limbo. Il sera aussi question, ici, d'un autre exilé grandiose, l'auteur de La promesse de l'aube, à propos duquel Nancy imagina le très précis tombeau de Romain Gary, ce juif russe francophile qui lui montra qu'il fallait non pas laisser derrière soi 2 ou 3 livres, mais toute une étagère. Dans ce 3e et dernier épisode, l'autrice de La Virevolte raconte également sa routine quotidienne. Être seule du matin au soir, ne vivre qu'avec des personnes imaginaires. Vous trouvez cela normal? Les gens normaux vivent dans un monde à 3 dimensions. Moi, j'en ai une 4e, avec une autre circulation des significations. Si je n'ai pas ma dose de solitude dans la journée, je deviens très malheureuse et méchante. Continuons alors à voyager dans sa 4e dimension, au risque de s'y perdre. Dans son essai « L'espèce fabulatrice », Houston écrit « Notre mémoire est une fiction. Cela ne veut pas dire qu'elle est fausse, mais que, sans qu'on lui demande rien, elle passe son temps à ordonner, à associer, à articuler, à sélectionner, à exclure, à oublier. C'est-à-dire à construire, c'est-à-dire à fabuler. » Tolstoï, dans sa jeunesse, a tenté d'écrire « L'histoire de la journée d'hier ». Il a abandonné au bout de 200 pages, ayant compris qu'il s'était fixé un objectif impossible. Nancy Houston, vous ne vouliez pas d'enfant. Vous aviez peur de perdre à la fois votre indépendance, votre minceur et le droit de vous suicider. 3 piliers dont vous pensiez qu'ils vous constituaient de manière fondamentale. Mais comme, et là je vais citer un aphorisme tiré de votre roman « Arbre de l'oubli », comme « germer vaut mieux que gémir, la plante vaut mieux que la plainte », la vie s'est arrangée pour vous. Vous rencontrez le philosophe Zvetan Todorov, qui a 15 ans de plus que vous, déjà père d'un garçon,
vous voyez que la fréquentation des enfants peut être une joie et apporter une autre dimension à l'existence.
C'était une chance inouïe de rencontrer cet homme-là qui se trouve avoir été très maternel. Il a été aussi maternel pour moi. Il a été une des personnes qui m'ont consolée de toutes mes fragilités. Aussi, il m'a montré la noblesse de la vie quotidienne. Et ça, c'est inoubliable et c'est des leçons sur lesquelles on ne peut que construire toute sa vie. Pour lui, contrairement à tant d'intellectuels, il y avait beaucoup de joie, de bonheur dans le fait de faire des courses, de faire la cuisine, de changer des couches, de donner des biberons. Il savait changer un bouton, il savait poser une pièce sur un coude de chemise d'enfant. Je n'ai pas eu peur de m'engager dans cette voie parce qu'il me donnait l'exemple. Un nouveau-né représente une charge de travail énorme et il me disait toujours, en fait, quand on est deux, ce n'est pas si lourd. Et ce qui était beau avec Svetan, c'est que jamais, je pense, en plus de 30 ans de vie commune, on a eu une dispute du type « c'est ton tour de faire ça, je l'ai fait la dernière fois » ou « ça fait 5 jours que je fais la cuisine et c'est disproportionné, tu me dois ceci ou cela ». Je devais presque me battre pour avoir le droit de faire la cuisine, tellement il aimait faire la cuisine. C'est pas pour décrire un mariage idéal, etc. C'est pas du tout pour dire qu'on n'a jamais eu de conflits. Mais les conflits n'étaient pas autour de la répartition des tâches ménagères. Nous étions, j'ajoute, c'est hyper important, suffisamment aisés pour rémunérer une femme de ménage. On n'avait pas non plus à faire ce travail-là, sauf quand on était dans la maison Berrichonne pendant l'été. Je me rappelle peut-être une ou deux fois où l'enfant pleurait trop, je ne dirais pas lequel ou laquelle. Et j'ai pris le couffin et j'ai dit, tu crois que ça ne te concerne pas? Mais c'est une fois, quoi, en 30 ans de vie commune. Ça, c'est un cadeau de la vie. Et du coup, je pouvais aussi regarder ces gestes et en faire de la matière pour mes romans.
Vous avez dit, la maternité est une source de pouvoir et d'abus de pouvoir. Certaines mères, dans mes livres, sont des femmes abusives, agressives. Les femmes qui deviennent mères sont souvent des terreurs. Mes livres contiennent aussi beaucoup de refus de maternité, des histoires d'avortement, d'infanticide, d'abandon d'enfants. Cela vient bien sûr de ma propre histoire. Si j'ai appris une chose tôt dans la vie, c'est que la maternité est source d'ambivalence. C'est important pour les garçons de savoir cela aussi et de comprendre en quoi ils sont concernés par des thèmes comme la grossesse, l'avortement, les fausses couches ou encore les enfants prématurés.
L'histoire du monde serait différente si les hommes du Pentagone, par exemple, ou l'équivalent dans chaque pays, devaient amener leurs enfants au boulot.
Lors d'un entretien en 2001 avec la célèbre essayiste Mona Chollet, vous avez dit « J'écris bien depuis que je suis mère. En voyant grandir mes enfants, j'ai vu émerger des individus à partir de presque rien. Et ça, c'est aussi passionnant que le roman. Les enfants vous échappent comme vos personnages. Ils ont une indépendance sidérante. Ils sont pris très tôt dans leur propre monde, leur propre système de signes, et vous n'avez pas de prise là-dessus. » Vous écrirez par la suite 3 livres avec vos propres enfants, Léa et Sacha, 2 romans jeunesse et 1 pièce de théâtre, la pièce de théâtre étant la plus jouée de toutes vos pièces.
Oui, la maternité m'a ramenée dans mon corps. Je pense que j'ai survalorisé l'esprit et dévalorisé le corps, comme le fait Simone de Beauvoir assez systématiquement, et surtout en ce qui concerne la maternité. Elle a des pages vraiment indignes sur la maternité.
Pour en revenir à votre vie avec votre compagnon philosophe et sémiologue, quel équilibre de travail avez-vous trouvé ensemble au quotidien? Comment ça s'organisait?
Ce qui était évident depuis le premier jour et jusqu'au dernier, c'est que j'avais un bureau à l'extérieur de la maison et que lui, son bureau, était à l'intérieur de l'appartement familial. Moi, j'ai juste gardé mon petit studio d'étudiante pendant les premières années et par la suite, j'ai toujours eu un studio à moi, pas seulement une chambre à moi. Comme disait Virginia Woolf, oui. Et je rentrais à la maison et c'était la vie de couple, la vie de famille. Maintenant, je vis seule, donc je n'ai plus besoin d'un bureau à l'extérieur. J'ai un bureau qui est séparé du reste de la maison, mais où je dors aussi. Ça, c'est vraiment la première fois depuis l'âge de 25 ans où je dors et travaille dans la même pièce. Et c'est c'est accepter que le rêve et l'écriture sont liés, sont apparentés. Cette chambre-bureau doit faire 25 mètres carrés. C'est une grande pièce sous le toit avec un très haut plafond, beaucoup de tableaux sur les murs, des tableaux d'arbres, des tableaux de paysages. La plupart sont réalisés par des amis à moi. J'ai aussi un masque africain depuis très longtemps que j'ai acheté lors de mon premier voyage en Afrique subsaharienne. Et c'est un visage masculin très allongé avec les lèvres comme s'il sifflait. Je l'appelle mon souffleur. Quand je ne sais pas la suite de l'histoire, c'est lui qui me la souffle. Le bureau lui-même d'écriture, où je continue d'écrire à la main, sur un sous-main que j'ai acheté à 20 ans au Puce de Montreuil et qui a d'innombrables ronds de tasses de café imprimées dessus. Il est rouge, en cuir. Et mon père avait un bureau bordélique. Il se noyait dans ses paperasses liées aux impôts, liées aux mathématiques, liées à ses lectures, liées au bouddhisme, les lettres de ses enfants et des jouets de ses petits-enfants. Il n'arrivait jamais à penser clairement dans ce fatras. Je trouve que notre fatras intérieur est déjà suffisant. Je me sens apaisée si j'arrive à mon bureau nu comme ça et je sors le manuscrit de la veille et je reprends là où j'en étais. Rouvert le manuscrit de mon roman hier après-midi, enhardi par les pages que j'avais écrites ici le matin. Sa lecture, j'en suis maintenant au troisième jet, mais presque insoutenable, et la déception d'autant plus cuisante que toute l'année dernière, j'avais littéralement été amoureuse de cette pile croissante de pages rouges et des personnages qui y étaient apparus, s'y étaient étreints et s'y étaient quittés. Tout écrivain est habitué à ces variations de jugement, mais pour moi, là où avant il y avait dents de scie, il y a depuis 2 ans montagne russe. Jamais je n'ai connu de tels sommets ni de tels abîmes. D'abord, je suis la petite fille fugueuse, courant, essoufflée, euphorique, follement heureuse après son rêve. Et tout de suite après, je deviens le parent punissant, négateur et répressif qui prononce la condamnation à mort de cette liberté et de cet espoir. Pourquoi l'alternance entre les deux est-elle de plus en plus violente?
Nancy Houston, Journal de la création.
Si j'ai bien compris, votre routine de travail est la suivante. Vous vous levez un peu avant 7 heures. Là, il y a 3 choses importantes. Petit déjeuner, yoga, piano.
Des horaires de travail réguliers et la liberté est à cette condition. Si on a envie de laisser la place à l'éclosion des histoires et le mûrissement des personnages, on a vraiment besoin de temps. Et c'est plus tranquille si c'est régulier.
Vous arrivez à votre table à 9h. Le téléphone est sur silencieux. Seuls vos enfants ou votre compagnon peuvent vous joindre. Le travail dure jusqu'à 13h. Vous déjeunez en écoutant les infos. Le travail dure ensuite jusqu'à 17h30 ou 18h. C'est seulement quand vous êtes sur un roman ou c'est tous les jours?
Disons que le matin, j'essaie de rester dans ce monde littéraire, donc ce n'est pas forcément pour écrire des pages ou corriger des pages d'un roman, ça peut être simplement pour lire quelque chose que j'ai envie de lire de façon très concentrée, ou traduire des textes de quelqu'un, ou même regarder des films que les gens m'ont... Probablement, je ne m'autoriserai pas un film de fiction, très rarement, mais un documentaire que quelqu'un m'aurait recommandé. Ensuite, le samedi, c'est complètement autre chose.
C'est que le samedi est off.
Oui, mais je...
À la vie, quoi.
Oui, non, mais c'est aussi... Je fais, par exemple, du ménage ou du jardinage. Et les deux m'aident aussi à réfléchir. Donc, parfois, on peut passer de très, très mauvaises matinées à être soi-disant en train d'écrire et d'excellentes matinées quand on est loin du bureau. Ça, c'est heureusement. Et le dimanche, c'est à... Maintenant, je me suis mise à pas mal bosser le dimanche aussi.
Vous avez appris à Boston, quand vous étiez secrétaire, à taper à la machine extrêmement vite, alors que moi, je n'utilise que 3 doigts maximum face à mon ordinateur. Pourtant, Vous nous l'avez dit plusieurs fois, vous écrivez vos livres à la main. Vous retapez quotidiennement les pages de la veille ?
C'est en général comme ça que ça fonctionne. Je me méfie de ma propre rapidité de dactylo. L'ordinateur vous donne une fausse impression que c'est déjà bon, parce que ça a déjà un air pro. Ça peut être centré sur la page, vous avez de jolis caractères, etc. Et la page est plus ardue et plus chaotique. Vous avez des ratures, vous avez des flèches, vous avez vraiment tout le travail mental de votre conscient et votre inconscient qui est visible. C'est plus sale et c'est important de rester près du sale.
Curieusement, vous jetez tous vos manuscrits à la poubelle, vite et même trop vite.
Sauf pour quelques nouvelles que j'ai écrites dans des cahiers qui sont trop jolis, donc je ne jette pas. Les manuscrits de romans, je les détruis systématiquement, alors qu'on a plusieurs fois proposé de les acheter. Je crois que ça, pour le coup, c'est trop intime. C'est mon linge sale.
J'aimerais savoir à quel moment vous découvrez l'œuvre de l'un de vos maîtres, le romancier et dramaturge irlandais Samuel Beckett, l'auteur d'En attendant Godot, lauréat du prix Nobel en 1969, ce qu'il considérait comme une catastrophe. Un anglophone qui écrivait en français, graphomane comme vous, heureux d'avoir laissé dans sa vie une tâche dans le silence, vous avez en commun d'avoir pour vos livres quitté votre mère patrie et abandonné votre langue maternelle, traité, je cite, comme une langue morte, pour n'y revenir que de longues années plus tard. Et comme lui aussi, vous avez des élans meurtriers pour vos idées naissantes. Vous lui avez consacré un drôle de livre bilingue, un hommage intitulé « Limbe Limbo », un pur exercice de style d'écriture à la Beckett, sans aucune information sur lui ou sur votre relation à son œuvre, mais vous y désignez Beckett à la fois comme votre frère et comme votre pied. Votre pied ?
J'ai pris un cours de littérature française à Victoria, en Colombie-Britannique, en 1970. J'avais déjà presque 18 ans et il nous a fait lire En attendant Godot. J'ai dû trouver ça un peu bizarre, un peu ennuyeux, un peu répétitif. Je n'étais pas vraiment à même d'en comprendre la portée radicale. Mais j'ai maintenant passé beaucoup, beaucoup de temps avec Beckett dans sa vie. Je suis allée beaucoup de fois à Dublin, j'ai fréquenté les musées qu'il aimait et qui l'ont influencé. J'ai suivi un peu les peintres qui comptaient pour lui aussi. J'aime beaucoup les histoires de sa vie. Par exemple, qu'il apprenait à jouer aux échecs à une petite fille de ses amis, qu'il buvait du whisky, ça me plaît beaucoup parce que je bois du whisky, qu'il aimait marcher, déambuler à Montparnasse en chantant après avoir bu du whisky. J'adore. Ensuite, je ne vais pas dire que c'est l'auteur au monde dont je me sens le plus proche. Ce qui nous rapproche, c'est cette hypersensibilité aux tournures de la langue. Il entend ce que les autochtones n'entendent pas parce que ça passe comme une lettre à la poste. Pourquoi on passerait comme une lettre à la poste? On n'envoie pas des lettres à la poste. C'est la poste qui achemine les lettres. C'est bizarre, ça, à une lettre à la poste.
Comme d'habitude, Claude, tu ne prends jamais ton pied que pour le mettre dans le plat.
L'âme limbo, j'ai écrit, je crois, immédiatement après avoir eu le prix Goncourt des lycéens pour Instruments des ténèbres, qui, étrangement, m'a plongée dans une grande dépression. Je me rappelle toujours être entrée dans une pharmacie berrichonne. J'échangeais toujours avec la pharmacienne et elle avait entendu parler de mon prix à la radio. Elle a dit « Ah, c'est merveilleux, tout va bien pour vous ». Puis elle prend mon ordonnance, elle voit que c'est du Prozac et elle a le visage qui se décompose comme ça. Donc j'étais très, très déprimée parce que je me disais maintenant « Ça veut dire que je suis une écrivaine française et que je dois avoir des intrigues françaises et des personnages français. Et ça me faisait très peur. Je voulais être ailleurs. C'est pas par hasard que je sois allée chercher quelqu'un qui me ressemblait par ce dédoublement. Et j'ai écrit l'âme dans un grand cri. Je voulais écrire quelque chose en anglais qui serait intraduisible. J'ai vraiment fait la première version en anglais uniquement. Et je voulais que ce soit tellement en anglais qu'on ne pourrait pas l'en sortir. Ensuite, évidemment, je me suis mise à essayer de le traduire tout de suite. Je l'ai envoyé à Hubert Nissen. J'étais à ce moment-là déjà chez Actes Sud. Et Hubert l'a égaré pendant plusieurs semaines, il n'a pas réagi et j'étais très angoissée. Il me disait, ça y est, c'est la fin, il n'aime pas, je ne vais plus jamais rien écrire.
Admettons donc qu'au premier chef,
Marmonne, Bougonne, Marmotte,
ou que du moins deux rechefs,
ah non, tout de même pas ça.
Allez-y. Escaladez l'échelle.
Tout sauf ça.
Ou alors, réveillez-vous le matin.
Ah, oh, pas encore se réveiller le matin.
Alors, réveillez-vous la nuit.
Pitié, laissez-moi en paix.
Tout ça manque singulièrement de vide.
Nancy Houston, Limbe, Limbo.
Vous écrivez en vous mettant dans les chaussures de ce frère pied, Samuel Beckett, construire des personnages, nouer des intrigues, bof, baf, c'est éreintant de toujours chercher la ressemblance, la vraisemblance, dire qu'ils viennent de tel pays et de tel milieu, qu'ils sont hommes ou femmes, et puis, et alors, ou enfants, on s'en fout. Et aussi, j'ai enfin trouvé ma propre langue, celle compréhensible par moi seul. Mais dans vos romans, les personnages sont fondamentaux et votre langue est très claire, contrairement à Beckett.
Oui, c'est pour ça que j'ai commencé en disant que c'est un texte de crise existentielle. C'est rare, en fait, que je me laisse aller à un texte hurlement. Et en même temps, ça m'a beaucoup amusée. J'étais très sarcastique à l'égard de moi-même.
Sur vos deux langues d'écriture, le français et l'anglais, sur ce que ça représente très concrètement en termes de méthode de travail, vous avez dit « Depuis ce tournant que représente la publication de Cantiques des Plaines à l'âge de 40 ans, donc depuis un grand quart de siècle maintenant, je fais toujours les deux versions d'un roman avant de donner à lire quoi que ce soit. J'écris une première version complète dans une langue, puis la traduis dans l'autre, et la traduction m'amène à changer l'original. Il y a donc toute une phase où je suis dans un aller-retour entre les deux versions, en train de corriger l'original en fonction des problèmes que j'ai trouvés en traduisant. La langue de la première version est celle que parlent mes personnages. Est-ce que ce processus vous demande de fait deux fois plus de boulot ?
Oui, ça demande deux fois plus de boulot, mais ça vaut le coup. Et je finis avec deux livres. Et il y a des paresses de langage, des facilités justement, qui peuvent se glisser dans le texte et dont vous devez vous débarrasser. Et ça devient flagrant si vous essayez de les traduire. Tous les défauts montent à la surface. Vous entendez les répétitions, vous entendez les phrases mal bâties, les clichés, et ainsi de suite. Et je l'ai découvert grâce au refus du Cantique des Plaines pendant plus de 2 ans. Je l'avais écrit en anglais, personne n'en voulait. La mort dans l'âme, je l'ai traduit en français. Et là, pour le coup, c'était refusé aussi par 17 maisons avant d'être accepté par Actes Sud. J'ai eu le temps d'en baver, mais j'ai aussi eu le temps de vraiment fignoler la traduction et de voir que c'était un très bon contrôle de qualité. En fait, les derniers romans, je n'ai pas travaillé comme ça parce que je n'ai plus d'éditeur en anglais. Je me sentais un peu libérée aussi par rapport à ces injonctions que je m'étais faites. J'étais plus libre d'écrire tantôt en anglais, tantôt en français et ensuite le manuscrit achevé n'était qu'en français.
J'aimerais maintenant parcourir plusieurs de vos essais qui m'ont captivé. En lisant « Tombeau » de Romain Gary, votre brève biographie splendidement documentée de l'auteur de « La promesse de l'aube » ou de « La vie devant soi », que vous avez mis 2 ans à écrire, publié en 1995, j'ai eu l'impression, dès la page 12, de trouver une clé pour comprendre votre œuvre. Avec cette phrase de Romain Gary à sa première femme, l'écrivaine britannique Leslie Blanche. C'est la quantité qui compte. Il ne faut pas laisser derrière soi 2 ou 3 livres, mais toute une étagère. Sinon, on n'existe pas. Pour préparer cette conversation, j'ai lu 20 livres à vous. C'est beaucoup, mais ça ne représente même pas un tiers de votre œuvre. Car depuis 1979, vous en avez publié 69, sans compter les ouvrages dont vous êtes seulement la traductrice. C'est ce qui s'appelle « Occuper le terrain ». Gary serait fier de vous.
quelqu'un d'autre a compté dans les 80 et quelques, mais peu importe. Parfois, c'est des tout petits livres, des livres pour enfants. Mais on peut aussi dire, non, il y en a plus parce que j'ai fait les versions anglaises. Donc, disons que c'est beaucoup. Joyce Carol Oates, qui est une graphomane un peu pareille.
L'autrice américaine de Blonde ou des Chutes, qui a signé, 180 livres depuis 1963, parfois sous pseudo, romans adultes et jeunesse, théâtre, poésie, essais, recueils de nouvelles. Sans oublier un très, très volumineux journal.
Elle a publié le journal d'une ou deux années de sa vie. Elle a toujours l'impression d'être paresseuse, de se tourner les pouces et elle se fait constamment le reproche de ne pas se bouger. Elle ne fout rien, quoi. Et donc, évidemment, j'ai très souvent cette impression aussi. Pensez à Mozart, combien il a composé avant de mourir à 37 ans. Comment, en si peu de temps, il pouvait avoir tracé autant de notes. C'est ma façon d'être dans le monde. Je ne lutte pas contre le temps. Je n'ai aucune peur de la mort, par exemple. Aucune, vraiment aucune. Je me sens extrêmement chanceuse d'avoir un lectorat, enfin, de sentir qu'il y a des gens pour qui mon travail compte, et qui trouvent que mes livres peuvent les aider à grandir leur univers un peu.
J'aimerais que vous nous lisiez ce long passage de votre biographie de Romain Gary, précisément sur ses habitudes de travail.
Donc Romain Gary, je le tutoie comme beaucoup de mes personnages. Dans la vie quotidienne, tu alternes entre une activité frénétique insensée et une sorte de stupeur hébétée. Tu évites tout ce qui exige lenteur, patience et répétition, et qui, par là, te rappellerait le passage du temps. Jardinage, cuisine, apprentissage d'un instrument. Ton idée de l'enfer, c'est un week-end à la campagne. Tu te couches tôt, te lèves tôt et écris comme un forcené, tous les jours sans exception, et quelles que soient tes obligations professionnelles par ailleurs. Tu travailles sans méthode, sans notes et sans plan, fonçant en avant tel un éléphant dans la savane. Tes connaissances ne sont pas scolaires, tu ne fais pas de recherche en bibliothèque, tu portes en toi la littérature russe, les contes fantastiques de Nina, sa mère, les images de maints pays déjà parcourus et de maintes tragédies vécues. Il venait de temps en temps, quand il était en train d'écrire, se souvient Leslie, sa première épouse, et il me disait « Raconte-moi, parle, raconte-moi quelque chose. »« Mais quoi ? Oh, n'importe !» Il n'avait pas de formation historique. Alors si on lui racontait des histoires, de longues histoires de Cosaques ou de la rébellion de Pougatchev, il adorait ça. Tu écris presque sans regarder en arrière, accumulant, entassant, page sur page. Et tant pis pour les longueurs et les redites, tant pis si c'est touffu, foufou, confus, ça ne fait rien. Grâce à tes fonctions diplomatiques, tu as des secrétaires. Ainsi, le plus souvent, le premier jet de tes livres n'est même pas écrit, mais oral. Tu racontes à la machine à écrire une histoire, te fiant à ton talent de conteur oriental et à ton sens très sûr de la phrase française. Ensuite, tu retravailles le manuscrit, le fais retaper et le donnes à lire à Leslie. Il ne voulait pas s'arrêter pour refaire et couper, dit celle-ci. Beaucoup de ses livres étaient déplorablement répétitifs. Je le lui ai dit quand j'ai lu le manuscrit des Racines du ciel. « Mais vous avez déjà dit ça, deux pages plus tôt. »« Oh, ça m'est égal. » Non, ça devait être une masse. Et cette masse, une fois livrée aux éditeurs, ceux-ci non plus, pour des raisons connues d'eux seuls, ne prennent pas la peine de te signaler les doublons. Peu importe que dans le même roman, tu aies raconté 5 fois la même blague ou fait 17 descriptions identiques d'un même personnage. Tout passe. Et par conséquent, ce que tu as laissé à la postérité est sans doute une des œuvres les plus échevelées de l'histoire littéraire. Il est certain qu'elle eût pu profiter d'un peigne fin.
Nancy Houston, Tombeau de Romain Gary.
Est-ce que vous avez déjà constaté que vous faisiez des doublons, les mêmes histoires ou les mêmes blagues dans plusieurs de vos livres ?
Non, et vous ?
Non.
En reprenant Francia l'autre jour, j'ai vu qu'il y avait la même expression sur deux pages côte à côte. Ça m'a un peu choquée. Je continue de corriger. On peut m'envoyer 5 jeux d'épreuves, je ferai des centaines de corrections. Mes éditeurs s'arrachent les cheveux. J'ai fait 20 pages de corrections, 20 pages de 20 corrections par page sur les BAT. Pour les non-initiés, c'est le bon à tirer. On est censé juste dire, ouais, c'est ça, on y va.
Et... on peut l'imprimer, c'est OK.
J'ai dû envoyer des fleurs pour me faire pardonner.
Dans votre journal de la création, publié en 1990, qui prend pour prétexte d'être le journal de bord de votre seconde grossesse, vous parlez des processus créatifs de certains couples emblématiques de la littérature moderne et précisément de la façon dont l'homme a su ou pas s'effacer pour que la femme, qui était bien souvent le véritable génie du couple, puisse pleinement exister en tant qu'artiste et non plus en tant que muse ou épouse maternante. C'est passionnant. Vous pensez à ces millions d'épouses qui ont fait taire des millions d'enfants pour que des millions d'hommes puissent écrire « Chut, papa travaille ». Vous évoquez très en détail Léonard et Virginia Woolf, l'horrible Francis Scott Fitzgerald dans son comportement plagiaire et humiliant avec Zelda, le mari minable de Sylvia Plath qui l'empêche sciemment d'écrire et lui prend la tête à propos de boutons à recoudre, Sartre et Beauvoir, Georges Sand et Alfred de Musset.
Je n'aimerais pas voir Ted Hughes, le mari de Sylvia Plath, réduit à quelqu'un qui parlait des boutons à coudre. C'est un immense poète, Ted Hughes. J'ai beaucoup d'admiration pour lui. Je lui dois beaucoup. C'est vraiment un écrivain qui compte pour moi. Et il a aussi écrit des lettres chaque année à l'anniversaire de Sylvia Plath, après sa mort, qui ont été éditées bien après la publication de Journal de la Création. Je suis un peu perturbée si j'ai pu donner l'impression dans le livre que c'était juste un macho. C'était très difficile dans les années 60 de mettre en place un couple égalitaire dans une société qui l'était si peu. Et encore une fois, avec une contraception très insuffisante.
Et dans ce livre, il y a une théorie du tunnel d'air que j'aimerais bien vous entendre nous lire.
Écrire, creuser un tunnel à travers l'air. L'air est là, c'est le langage infini et arbitraire. On peut le traverser sans creuser quoi que ce soit. On peut parler comme on respire. Mais dès qu'on commence à creuser, les problèmes se posent. Ce devrait être un tunnel de quelle largeur, de quelle hauteur, de quelle longueur? Et on rencontre des obstacles. Et les murs du tunnel s'effritent et ses tournants nous coincent. Et on se démène et on se débat. Et à la fin, après une longue lutte, on voit la lumière au bout du tunnel. Ensuite, d'autres pourront s'y engouffrer à leur tour pour découvrir le plaisir du solide, de l'inamovible, de la forme au milieu de l'air amorphe. D'autres liront nos livres et auront, lorsqu'ils émergeront à nouveau dans la langue orale, un autre regard sur les mots en l'air.
Nancy Houston, Journal de la création.
Dans votre essai sur l'écrivaine et prostituée suisse Griselidis Réal, intitulé « Reine du réel », publié en 2022 aux éditions Nil, vous insistez beaucoup sur l'un des points communs que vous avez avec cette peintre, poétesse, dealeuse, tolarde et militante des droits des travailleuses du sexe, la colère comme moteur, la rage comme source d'énergie. Vous inventez un verbe pour dire « écrire » et « crier ».« Crire ». C'est toujours ça, le carburant, à 70 ans?
Plus que jamais. Je l'ai découvert peut-être grâce à Griselidis. Je crois que j'ai eu besoin de pouvoir penser du mal de ma mère et pouvoir la tenir à l'écart, l'imaginer comme quelqu'un qui m'empêchait d'être heureuse pour pouvoir écrire. Ma mère en a eu marre. Quand je passais à la radio ou à la télévision au Canada, il était toujours question de cette histoire d'abandon. Elle en a eu véritablement marre et je peux la comprendre. En même temps, je ne peux pas m'inventer une autre enfance que celle que j'ai eue. Et c'est certain que c'est un événement décisif. Donc, je peux dire que c'est donnant-donnant.
Depuis 40 ans, en plus des 70 livres publiés, de ces innombrables conférences, articles, chansons, spectacles et autres ateliers d'écriture en prison, vous tenez un journal qui fait des milliers et des milliers de pages. Vous avez dit, à ce sujet, Je suis toujours impressionné quand je lis des entrées brillantissimes sur la politique ou la littérature dans le journal intime de Sartre, de Beauvoir ou de Marina.
Tsvetaeva.
Le contenu de mon journal est très, très névrotique. Je le cache soigneusement. À quoi vous sert-il ?
Pense bête, c'est-à-dire que je peux y noter un événement ou un film ou la lecture d'un livre et raviver mon souvenir de la chose en question. Il me sert aussi à ne pas être complaisante dans ma façon de raconter le passé. On se mythifie, tout le monde raconte son histoire d'une façon flatteuse et qui nous arrange. Et le journal, c'est pas qu'ils disent la vérité, mais en tout cas, ils disent souvent des choses qui sont en contradiction avec ce qu'on pense, dans des relations avec des hommes, des amis ou des choses comme ça.
Rien de ce journal ne sera jamais publié.
C'est déjà complètement prévu depuis des années que ça parte à Ottawa, aux Archives nationales du Canada, à ma mort, et que ça puisse être consulté par des gens qui s'y intéressent un certain nombre d'années après la mort de mes enfants. Donc on n'est pas en train de parler de maintenant.
J'aimerais maintenant savoir comment vous travaillez avec vos éditrices et éditeurs. Votre roman « Cantique des plaines » en 1993 vous fait rentrer chez Actes Sud. Là, vos textes étaient relus par le fondateur de la maison, l'écrivain belge Hubert Nissen. Jusqu'à sa mort en 2011, c'était lui votre interlocuteur privilégié ?
Les premiers livres étaient édités avec Bertrand Py, qui est maintenant le directeur littéraire de la maison, qui est un homme de mon âge. Et Hubert a repris à partir du quatrième ou cinquième livre qui était « Instrument des ténèbres ». Et je ne peux que souhaiter des éditeurs semblables à tout écrivain ou écrivaine en espoir. Le sentiment qu'il croit en vous, une écoute qui peut vous aider à comprendre que vous n'avez pas fait aboutir tel aspect de votre projet, une lecture détaillée avec des notes prises au crayon très très légères, qui suggère de bouger un mot, d'ajouter une ponctuation. Moi, j'ai dit souvent, je n'ai pas trouvé un publishing house, mais un publishing home. Un sentiment de pouvoir rentrer chez moi, qu'on m'accueillait, que c'était oui, c'était pas un oui pour 5 minutes, comme ça l'a été dans le monde anglophone, y compris dans mon propre pays, où je n'arrive plus du tout à publier mes livres, en anglais donc. Parce qu'on regarde les ventes du livre précédent et si elles ne sont pas à un certain niveau, c'est juste non. On ne prend pas le suivant, on le lit même pas. Alors que chez Actes Sud, ils savaient qu'il pouvait y avoir des hauts, des bas, ce n'était pas grave. Ensuite, c'était aussi une sorte d'époque bénie. Peut-être que c'est beaucoup plus difficile maintenant avec tous les monopoles dans le monde de l'édition qui s'installent. Tout le monde est obligé de raisonner de façon plus à court terme maintenant. Mais je suis très heureuse d'avoir fait partie de cet âge d'or.
Ensuite, c'est Eva Chanet qui a repris le flambeau des corrections et aménagements nécessaires à vos côtés.
Quand je suis rentrée dans la maison, elle était attachée de presse. Elle avait une intelligence et une compréhension si profonde des manuscrits que j'étais étonnée qu'elle ne soit pas éditrice. Elle avait envie de le devenir. Nous sommes devenus amis et ça ne l'empêche pas du tout de me dire des choses parfois assez lapidaires, assez ironiques sur des tics de style que je peux avoir, des mots qui reviennent trop souvent. Les livres sont édités aussi au Québec. J'ai un éditeur très fidèle là-bas qui s'appelle Pierre Filion pour la maison Leméac à Montréal. Avec ce dernier roman, Francia, j'ai fait une chose que je n'ai jamais faite auparavant, qui était d'envoyer un manuscrit incomplet. J'étais pas sûre de ma façon d'avancer dans ce livre sur la travailleuse du sexe trans. J'avais l'idée d'inclure les clients, mais je ne savais pas de quelle manière, sur quel pied danser, quelle personne utiliser. Je suis passée par la première, la deuxième, la troisième. J'ai fait des versions. Et donc, ces gens qui sont d'une patience incroyable ont lu toutes ces versions successives et m'ont fait des retours, des commentaires, des « ça va aller, continue, c'est ok, t'inquiète pas ». J'ai beau avoir fait tous les livres que vous mentionnez, mais on est toujours autant dans le doute la centième fois que la première.
Depuis une vingtaine d'années, vous êtes représentée par des agentes. D'abord Marie Kling, puis Michel Canonidis. Pour celles et ceux qui connaîtraient mal ce métier, de quoi vous soulage-t-elle ?
À l'époque, c'était excessivement rare en France pour les auteurs d'avoir des agents pour gérer leurs contrats avec leurs éditeurs français. J'ai pris un agent, en fait, à ce tournant qu'on a évoqué, Cantique des Plaines, quand je me suis mise à écrire en anglais. Elle ne pouvait pas simplement me faire un contrat pour la version anglaise, il fallait que ce soit pour le monde entier. Peut-être qu'elle peut négocier un peu mieux, on n'est pas gêné de demander un peu plus d'argent ou quoi, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe, ça c'est formidable. Elle s'occupe aussi des éditions étrangères, donc je touche un pourcentage là-dessus, ce qui n'était pas le cas auparavant parce qu'on s'aliénait tous ses droits des consignés avec l'éditeur français. Raison pour laquelle les éditeurs français n'aimaient pas les agents. Je crois que les mœurs ont un peu évolué ces dernières années.
Si mes chiffres sont exacts, vous avez dans votre bibliographie une dizaine d'ouvrages qui se sont vendus, rien qu'en France, à plus de 20 000 exemplaires. C'est vraiment fantastique. C'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre le désintérêt des éditeurs anglophones à votre égard.
Je ne suis pas sur place, je suis bizarre, je suis une anglophone récalcitrante, qui leur ressemble mais qui n'est pas là. Je ne sais pas, ça me fait mal.
Vous avez déclaré que je gagne bien ma vie ou pas est au fond secondaire du moment que je gagne suffisamment pour m'offrir le luxe de la solitude. Est-ce qu'on peut parler d'argent ? Vous avez donné des cours de littérature, de linguistique et de théorie féministe de 1979 à 1993. Mais depuis quand vivez-vous uniquement, ou presque, de votre art, de votre plume ?
Depuis 1993, très exactement. Et donc, ça coïncide avec mes 40 ans. C'est là que je cesse de travailler au ministère des Finances, que je cesse de donner des cours d'anglais. C'est vrai qu'il y a des revenus annexes qui ne sont pas les droits d'auteur, mais qui sont des cachets de conférences ou de spectacles, comme je fais beaucoup de spectacles et que j'adore ça. Tout ça est lié à mon travail d'écrivain. Et je suis passée de quelqu'un de très pauvre à quelqu'un de très riche. Et c'est rare de dire qu'on est riche, mais en fait, je suis riche. Je ne fais pas partie des top 10, évidemment. Mais je n'ai plus du tout de soucis d'argent. Quand je suis arrivée à Paris, je me rappelle une fois, j'ai fait développer des photos et le prix était 70 francs. Et j'ai demandé si je pouvais payer sur plusieurs semaines parce que je ne pouvais pas payer 70 francs. C'était impossible. J'ai vraiment commencé de rien du tout parce que j'avais une dette énorme à l'égard de l'université. Ils m'ont fait des bourses, ils m'ont aussi fait des prêts et que j'ai dû rembourser. J'ai le souci que ça ne devienne pas une source de conflit après mon départ. Donc, j'essaie de me débarrasser de mes sous avant de partir en les donnant un peu à droite à gauche. Et puis, j'ai la chance maintenant d'avoir une maison à moi dans un quartier que j'adore, qui est le 20e arrondissement de Paris. Je suis incrédule d'avoir à moi une belle maison où je peux accueillir des gens et c'est suffisamment grand pour que je ne sois pas dérangée par la présence d'amis. Donc, l'argent, c'est fait pour donner. Mais je ne m'en sers pas, comme vous voyez, pour m'habiller mieux. Je m'habille toujours comme un sac.
Et vous exagérez un peu. Rentrons dans les détails, si vous le voulez bien. À combien s'élevait, grosso modo, la valeur reçue des éditions Ramsay pour votre tout premier livre, Joué au papa et à l'amant en 1979?
1000 francs, peut-être 2000, quelques mois de loyer.
Combien s'élevait la valeur reçue des éditions Actes Sud lors de votre entrée dans la maison pour Cantique des Plaines en 1993?
On est encore en francs. Oui, peut-être 10 000. Et ils m'ont donné un maximum de 200 000 après que j'ai eu le prix Femina.
200 000 euros d'avaloir, suite au succès de Ligne de faille, sorti en 2006.
Ensuite, ils se sont moins bien vendus, donc plutôt 100 000, ce qui est déjà énorme.
Bon, mais c'est aussi 2 ans de travail à chaque fois. Ensuite, il y a les traductions. L'Inde de Faye a été traduit dans 45 langues. C'est vraiment un livre qui a plu à tout le monde. Ces enfants de 6 ans dont on a parlé, ça m'a beaucoup, beaucoup impressionnée et touchée. Il y a des livres qui n'ont pas marché du tout, du tout, du tout. Il y en a qui ont été super importants pour moi, comme Danse Noire, dont on ne parle jamais. On ne va pas en parler maintenant, mais c'est une grosse déception. Ça n'existe pas. J'ai fait un livre sur l'Alberta aussi, le Club des Miracles Relatifs, qui parle des installations pétrolières dans le nord de ma province et des 100 000 hommes qui travaillent là-haut, qui viennent du monde entier. Mais ça n'a pas bien marché non plus. Mais je ne vis jamais les déceptions comme une chose qui me ferait m'effondrer. You win a few, you lose a few. Et donc, comme je n'ai pas d'insécurité financière fondamentale, je sais que je peux recommencer. C'est pas grave. C'est pas grave.
Si le maximum en termes d'avaloir a été 200 000 euros, est-ce que vous avez un minimum en dessous duquel vous dites non, moi le livre, je ne lirai pas?
Mon engagement vis-à-vis de ces deux maisons, Actes Sud, le MEAC, est total. Donc, je suis solidaire de leurs hauts et leurs bas. S'ils me disent « rien ne marche, on ne peut plus sortir 1000 euros », pas grave, on y va.
Dernière question sur ce registre. Combien touchez-vous, en termes d'avaloir, pour ce bref recueil de poèmes « Choses dites » récemment publié à l'Iconoclaste, cette petite maison d'édition indépendante qui a obtenu, grâce à Jean-Baptiste Andrea, le Goncourt 2023?
Dans les 6000 ou quelque chose comme ça.
Une question de nos réalisateurs Samuel Hirsch et Charlie Marcellet. Quel est le son du réel qui correspond le mieux à votre œuvre, à votre univers littéraire?
Corne de brume. C'est un bruit que j'aime beaucoup, que je trouve très mélancolique. Et peut-être que je vois le monde comme quelque chose qui est très embrumé, oui, c'est très difficile de voir. Et moi, je produis ce son qui prévient qu'il faut faire attention, que quelque chose avance, que il y a des écueils à éviter, que nous naviguons ensemble. J'avais un ami compositeur au Québec qui faisait des enregistrements des différentes cornes de brume dans l'Atlantique, autour de Terre-Neuve, par là, et qui les intégrait à des compositions musicales, et ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Ça me plaît.
Vous avez dit... Je ne peux pas passer directement d'un roman à un autre, c'est trop éprouvant. À chaque fois que je termine un livre, j'ai l'impression d'avoir tout dit de ce que je savais de l'espèce humaine. Sur quoi travaillez-vous en ce moment?
J'écris des petites préfaces que j'ai promises à droite à gauche et je traduis Francia parce que je n'ai pas fait la version anglaise complète. Je me dis que là, c'est peut-être un livre qui pourrait intéresser les Anglos.
Pour terminer, une petite histoire. Il y a quelques semaines, au cœur de l'hiver, j'avais rendez-vous chez ma psy, à Paris. J'étais à la fois grognon, mélancolique et en avance. Ce matin pluvieux, j'étais aussi victime, décidément c'est pas de chance, d'une crise de conjonctivite. J'avais à peu près les yeux d'un lapin de garenne. Pour patienter, j'ai trouvé refuge dans une petite cour très calme, sous un arbre. Mon regard, rouge et vitreux, est alors attiré par une petite peinture en faïence, directement incrustée dans le mur d'une maison. Je m'approche et je vois que la faïence représente une femme du Moyen-Âge en train de verser des gouttes d'eau ou de lait, ou peut-être du sel, ce n'est pas très clair, dans les yeux d'une enfant. J'en déduis évidemment que le destin me met en face d'une sorte de Pietà de la conjonctivite, m'incitant à acheter du collyre à la pharmacie. C'est à ce moment-là qu'une femme élégante sort de la maison. Elle porte des lunettes noires, elle a les cheveux noirs, je lui demande si elle sait qui a incrusté cette mosaïque dans le mur. Et elle me dit « C'est moi, c'est un cadeau offert par une amie très chère qui vit à l'étranger. » Je demande ce que signifient ces gouttes versées dans les yeux. Et mon interlocutrice me dit, en retirant ses lunettes noires, « Eh bien, figurez-vous que je suis écrivain. » Et que mon amie a vu dans cette image une métaphore de ma profession. Notre métier consiste à éclaircir la vue de nos semblables. Je souris, je dis à la dame élégante que je suis écrivain moi aussi, cela l'étonne et elle repart vers d'autres aventures.
Il y avait un petit renfoncement dans le mur quand j'ai acheté la maison. C'était exactement dans ce format du carreau, donc j'ai demandé qu'on l'intègre carrément au mur de ma maison. Je pense que c'est une sorcière. Et pour moi, c'est très proche du monde de l'instrument des ténèbres. Je crois qu'elle est en train de donner des gouttes. À mon sens, peut-être que je vous ai déjà dit ça ce jour-là, c'est un citron qu'elle tient au-dessus du visage de la personne. Peut-être un enfant, peut-être un petit homme. Et c'est astringent, c'est très désagréable. Bien sûr, dans l'œil, les gouttes de jus de citron. Mais ça peut être un vrai soulagement et aider les gens à mieux voir. Il y a aussi au-dessus de cette scène encadrée sur le carreau de céramique, il y a un autre personnage, une tête de femme, qui regarde cette scène avec bienveillance. Et je pense que c'est une divinité païenne.
Je n'ai plus qu'à vous demander de nous lire en guise de conclusion le tout dernier poème de votre recueil « Choses dites », écrit en 1991 dans, je cite, « un état de souffrance maximale, mais qui vous a permis de ne pas vous effondrer à cause d'un chagrin d'amour. »
Secret. Que feras-tu de tout ce que je t'ai confessé ? Ma douleur ancienne, mes fissures, les intimes détails de l'anatomie de mon âme, vas-tu les éradiquer de ta mémoire, les banaliser à ta guise, les dilapider en bavardage frivole, les exhiber sous licence poétique? Oh, je t'en prie, prends bien soin de mes secrets.
Merci beaucoup, Nancy Houston.
Merci infiniment, Richard Guetté.
Chères auditrices, chers auditeurs, merci d'avoir écouté ce nouveau numéro de Bookmakers, les écrivains au travail. Très grand merci, surtout à mes complices. Mathilde Guermont-Pré pour la prise de son, Juliette Cordemanse pour le montage, Charlie Marcellet pour la réalisation et le mixage, Perrine Kervran pour ses retours attentifs, Samuel Hirsch pour toutes les musiques originales, Thomas Loupias pour la reprise de notre générique au clavecin, que vous entendez en ce moment même. Sans oublier Sylvain Cabot pour le portrait dessiné de l'invité visible en ligne, Emma Bouvier pour les voix additionnelles et Victoire Thuayon pour m'avoir incité un jour à me pencher sur l'œuvre de Nancy Houston. La prochaine fois, pour le dernier numéro de la saison, je recevrai avec joie Laura Vasquez.